Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Nous voici de retour pour cette émission avec vous, Monseigneur, diffusée sur Radio Lapourdie et sur Radio Présence, où nous vous parlons, nous vous posons des questions sur tous les sujets d'actualité qui concernent notre diocèse, mais aussi un peu plus largement la France, et justement la France, puisque au jour où cette émission est enregistrée, nous ne connaissons pas encore le résultat du second tour de l'élection présidentielle, et vous avez publié un communiqué pour donner des éléments de discernement. Alors, pourquoi avez-vous voulu finalement donner ce communiqué qui donne des éléments sans donner de consignes et en même temps, voilà, les éléments sont quand même aident quand même la réflexion. Quel était votre but ?
Ben, je crois que c'était un peu de prendre de la hauteur par rapport à des débats et j'allais dire beaucoup de controverses et beaucoup de confusion, je pense, hein, au lendemain du premier tour, avec les deux finalistes un peu atypiques qui sont arrivés et l'effacement des partis classiques de gouvernement, de droite comme de gauche. Et donc je sentais beaucoup de confusion, beaucoup d'embarras hein, de la part de nombreux catholiques. Et je me disais qu'il était important pour un évêque comme moi d'inviter à prendre de la hauteur et du recul et de ne surtout pas s'engager, pour ce qui est de l'Église, hein, de ce que je suis, moi comme évêque, comme pasteur, dans la bataille politique elle-même, parce que ça n'est pas de ma compétence. Et l'Église n'a pas à donner ni consigne de vote, ni indication de vote, ni des solutions concrètes pour résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui à nos concitoyens en France et qui ont été largement débattus au moment de la campagne électorale d'avant le premier tour.
Alors vous avez parlé, Monseigneur, des points non négociables qui ont été...
Alors j'ai surtout voulu dire, j'ai surtout voulu appeler au discernement en disant que si l'évêque donne des consignes de vote ou des indications de vote, il risque de se substituer à la conscience des citoyens qui ont le droit de se déterminer par eux-mêmes et non pas selon des consignes, des slogans, des mots d'ordre, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent de telle ou telle autorité de la société civile ou politique, encore moins, bien sûr, des autorités ecclésiastiques. Aussi parce que je sens qu'il y a beaucoup de diversité parmi les catholiques, comme beaucoup de sondages d'opinion le montrent, et le pasteur que je suis ne peut pas prendre le risque, en prenant une position quelle qu'elle soit, de diviser un peu plus ces catholiques et de leur dire bah, « ceux qui votent de cette manière ou de cette manière ne sont pas bons ». Hein, c'est absolument impossible. Ce que j'ai voulu surtout dire, c'est que une élection, une participation à une élection par le vote, hein, qui fait partie évidemment de notre démocratie, devait se faire en conscience à partir d'un discernement. Quand on discerne en matière politique, qui est au fond une des matières morales, hein, qui concerne donc le bien commun de la société, eh bien on discerne à partir de principes. Les principes en morale, et c'est vrai aussi en morale sociale et politique, ce sont les finalités. La fin par excellence de la société politique, c'est le bien commun. Donc entendons-nous bien sur ce que c'est que le bien commun, qui était très bien défini par le Concile Vatican II à la suite de Saint Jean XXIII, comme les conditions sociales, l'ensemble des conditions sociales, qui permettent l'épanouissement intégral des citoyens et qui puissent rechercher eh bien, leur fin, leur finalité dernière, qui excède bien sûr ce qu'on appelle l'intérêt général, qui concerne généralement essentiellement le bien-être matériel. Voyez. Et à partir de là, je dis qu'il y a des principes qui commandent la vie sociale et qui nous sont rappelés par la doctrine sociale de l'Église, tout simplement. Finalement, c'est un appel à éclairer ce discernement des principes qui nous sont donnés par l'enseignement de l'Église dans un corpus de doctrine qui est trop méconnu et que, tant Saint Jean-Paul II que Benoît XVI et qu'aujourd'hui le pape François nous invitent à promouvoir davantage dans la vie de l'Église et en particulier pour les laïcs qui sont engagés de fait directement dans l'animation chrétienne des réalités temporelles, qui est la doctrine sociale de l'Église. Alors je rappelle des principes qui sont les principes de la dignité humaine. J'ai d'ailleurs remarqué que Monsieur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, lui aussi a fait un petit communiqué, plus bref que le mien, mais qui est sur le même ton. hein, où il rappelle les principes essentiels de la doctrine sociale de l'Église, qui décline ce principe premier qui est celui du bien commun. Et la deuxième chose que j'ai voulu dire, c'est que quand il s'agit du discernement, qui est un acte prudentiel de la raison, pratique ou éthique de chaque citoyen, eh bien, non seulement on regarde les finalités qui ont valeur de principe, donc de la vie sociale et politique, mais pour les appliquer dans la situation qui est la nôtre, eh bien, on doit aussi avoir une connaissance des singularités de l'action, toujours inédites, toujours contingentes, dans lesquelles il faudra appliquer ces principes. Les singularités de l'action, c'est la connaissance de la situation de la France, hein, d'une part, et puis c'est la connaissance des programmes des candidats qui briguent les suffrages des citoyens, qui proposent en effet un certain nombre de solutions concrètes aux problèmes qui se posent dans la situation de la France aujourd'hui, afin d'atteindre le bien commun, qui doit être ce qui est recherché par tous. Hein. La politique, c'est l'art précisément de rechercher un ordre social juste et de rechercher un bien commun, c'est-à-dire un bien que tous puissent rechercher en commun, parce que il va garantir la dignité et l'épanouissement intégral de toute personne humaine sans exception, à commencer par la plus petite et la plus vulnérable.
Alors, ce qu'on appelle principe non négociable, en fait, est-ce que ça veut dire que si un seul de ces principes n'est pas respecté, on ne peut pas voter pour la personne ?
Non,
parce que
dans ce cas-là,
on sait qu'on pourrait voter pour aucun des deux.
Non, pas du tout. C'est évident que quand on regarde les principes qui sont énoncés par l'Église sociale de l'Église, il n'y a pas de candidat idéal. Hein. C'est un discernement. Voilà. C'est chacun qui essaie de doser parmi les programmes qui sont proposés, les différents principes tels qu'ils s'expriment dans leur programme, de manière forcément imparfaite, parce que nous ne sommes pas dans un monde idéal, encore une fois, et tous les principes sont liés. On a dit souvent qu'il y avait trois principes non négociables. Il y a trois premiers principes non négociables, sans doute, qui concernent la
défense de la vie.
La protection de la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, rappelée par l'Église, rappelée par le Monsieur Pontier d'ailleurs dans son communiqué. Il y a la famille, hein, fondée sur l'union stable d'un homme et d'une femme. Il y a le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs valeurs et qui inclut le choix de l'école pour leurs enfants. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a tout ce qui peut promouvoir le bien commun. Il y a une économie au service de la personne, comme le pape le rappelle sans cesse, qui ne soit pas soumis de manière systématique à la main invisible ou la liberté, l'ultra-liberté du marché. Vous voyez, c'est tout ça, c'est un ensemble. Il y a l'accueil des étrangers, l'accueil des émigrés, qui est forcément régulé aussi par les devoirs de s'intégrer, et le droit, qui est toujours rappelé, encore une fois, aujourd'hui, par le pape François, à la suite du pape Benoît XVI, le droit de ne pas émigrer, donc à la source d'aller aider dans des projets de coopération les pays où on est obligé parfois de quitter sa terre pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques.
Dans votre communiqué, qui est daté du 1er mai, qui a été mis en ligne sur le site diocésain le 2 mai, et aujourd'hui nous enregistrons cette émission le 4 mai, il y a plus de 20 000 connexions, donc ce communiqué était attendu apparemment, puisqu'il y a beaucoup
Je pense que ça a permis à beaucoup de gens de prendre un petit peu de hauteur et ensuite de se déterminer par eux-mêmes. Hein, comme vous le voyez, je ne préconise aucune candidature et d'une certaine manière, je ne me mets pas non plus en disant de se méfier de telle ou telle candidature. J'appelle aussi à cette information,
c'est ce que j'allais dire, donc,
juste
dans ce communiqué
et indépendante, qui permette aux citoyens d'avoir une connaissance suffisamment claire et exhaustive des singularités de l'action dans lesquelles on a appliqué ces grands principes. Et c'est vrai que j'ai rappelé un certain nombre de textes récurrents de la part du pape François qui dit souvent que le plus grand péché des journalistes est la désinformation ou la calomnie ou tout ce qu'on voudra. Le pape Jean-Paul II le disait, l'influence des lobbies, bon, on ne peut pas les nier aujourd'hui dans le contexte actuel, mais je parle de manière très large. Voilà.
Dans le journal La Croix, aujourd'hui, ce journal reprend un sondage du Monde qui dit que 42% des catholiques pratiquants voteraient Marine Le Pen. Ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire seulement que, et c'est un peu l'objet aussi de mon document, c'est qu'il y a une vraie diversité aujourd'hui au sein de l'électorat catholique, que peut-être on est bien obligé de noter, comme on l'a entendu hier d'ailleurs, à propos de ce débat pas franchement brillant, auquel je n'ai pas assisté en entier, puisque moi j'ai participé à une réunion de prière ce soir-là, mais Mais on est obligé de noter que tous ces partis qui se présentent aujourd'hui sont des partis qui font partie du paysage. Que le Front National, comme les autres partis, est inscrit dans le paysage politique de la France aujourd'hui.
En 2002, les évêques avaient pris une position.
Et moi, je n'étais pas évêque, je me souviens.
Qu'est-ce qui a changé, selon vous, depuis 15 ans?
Ce qui a été dit par les journalistes eux-mêmes, hier...
Les évêques avaient appelé à ne pas voter pour le Front National. Donc, qu'est-ce qui a changé en 15 ans pour qu'aujourd'hui, finalement, le Front National fasse partie du paysage
Peut-être que le Front National a acquis une nouvelle légitimité dans certains lieux où ils exercent des responsabilités. Hein, je ne sais pas. Il y a certainement un changement qui s'est opéré. C'est plus tout à fait les mêmes qui sont à la tête de ce parti aussi. En tout cas, il fait partie du paysage démocratique. Hein, je pense que si ce parti était illégal, je pense qu'il aurait été interdit. Hein, bon, voilà. Les journalistes disaient cela hier. Ils disaient en 2002, il n'était pas possible d'imaginer que Jacques Chirac ait un débat organisé devant la télévision avec Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, la question ne s'est même pas posée. Et Emmanuel Macron n'a même pas imaginé un instant qu'il n'entrerait pas en débat avec Marine Le Pen. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est un fait. Hein, c'est un fait qui est inscrit dans le paysage d'aujourd'hui. Et donc, il y a une diversité. Ben, cette diversité, il faut l'accepter aussi.
Dans votre communiqué, vous ne parlez pas de l'Europe ?
Non, je n'ai pas parlé de l'Europe parce que ça, c'est pas un principe non négociable. C'est pas un principe d'enseignement de l'Église, c'est un principe de solidarité. J'ai parlé d'un principe de solidarité. Voilà. Donc l'Europe, elle rentre dans ce principe de solidarité, c'est évident.
Il y aura bien sûr la suite avec les élections législatives. Alors, oui. Ce communiqué en vue du second tour des élections présidentielles peut servir aussi au discernement pour les catholiques pour les élections législatives.
Bien sûr, oui. D'autant plus, parce qu'ils auront des critères aussi pour apprécier les programmes de ceux qui, plus proches d'eux, brigueront leur suffrage.
Merci Monseigneur Hayé. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous avons enregistré cette interview le 4 mai, donc bien avant le second tour des élections présidentielles. Merci.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayé, nous continuons cette émission avec vous sur Radio La Pourdie et Radio Présence. Alors le 8 avril dernier, l'organisation ETA a remis ses armes aux autorités françaises. Il y a eu une grande manifestation dans les rues de Bayonne. Tout le monde semble s'être réjoui quand même de cette avancée vers la paix. Alors on vous a reproché, à vous et aux évêques du Pays Basque espagnol, de ne pas avoir participé ou d'être demeuré silencieux sur cette question, alors que l'archevêque de Bologne, lui, était présent. Alors comment est-ce que vous réagissez à ces reproches ?
Je n'ai pas forcément à réagir à des reproches qui me sont faits. Je crois avoir eu une position qui est semblable à celle des évêques du Pays Basque du Sud, dont je suis nécessairement solidaire, parce qu'il y a une collégialité épiscopale, et en plus, nous faisons partie de la même réalité, du même territoire qu'est celui du Pays Basque, que ce soit du côté français, que ce soit du côté espagnol. La seule chose que je peux répondre à cette question, c'est que je n'ai jamais été directement interpellé par rapport à cette journée du désarmement de l'ETA. Je l'ai appris par la presse, bien sûr, comme tout le monde, mais je n'ai jamais été personnellement en tant qu'autorité ecclésiastique, donc puisqu'on me reproche en tant qu'évêque de ne pas avoir pris la parole, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été informé officiellement, et je n'ai pas été invité. Donc ça, c'est quand même une chose qui est importante à savoir. Ensuite, je le comprends pourquoi. Parce qu'il s'agissait d'un acte plus politique que moral. Encore une fois, comme évêque, là où je dois me positionner, c'est dans la question morale de la question de la paix au Pays Basque, dont je ne peux que me réjouir si elle connaît des avancées aujourd'hui. J'ai forcément communié intérieurement à cette joie de milliers, je crois presque 20 000, habitants du Pays Basque, tant du Sud que du Nord, qui ont manifesté leur joie par rapport à cette avancée dans toutes les démarches qui sont engagées, celles qui sont publiques et politiques, celles qui sont plus morales, plus personnelles, moins forcément publiques, de cette avancée de la paix. Évidemment, par le désarmement de l'ETA. C'est quand même un pas qui est très important dans ces démarches, et nul autre que moi ne pourrait... Je ne peux pas ne pas me réjouir de cette question. Mais pour ce qui est de cette démarche plus politique, plus stratégique, du désarmement de l'ETA par l'intermédiaire d'une médiation de la société civile, je n'ai pas été directement concerné. Alors, c'est vrai qu'on m'a mis en porte-à-faux et on nous a mis en porte-à-faux avec la présence assez surprenante, c'est vrai, de Mgr Zuppi, archevêque de Bologne, qui a d'ailleurs été présenté indûment par la presse comme délégué par le Vatican pour être témoin de l'Église officielle. Bon, je me suis en effet étonné de sa présence. C'est vrai qu'il y a des règles de déontologie au sein de l'Église, et que si je vais participer à une manifestation officielle dans un diocèse qui n'est pas le mien, la moindre des choses, c'est d'informer l'ordinaire du lieu. Ça fait partie de notre déontologie. Nous appartenons tous à une même fraternité épiscopale, un même collège épiscopal. Il y a des choses qui se font dans l'Église. Tout le monde en conviendra.
Bon. Vous avez pu le lui dire après coup ?
Oui, j'ai pu lui écrire. Ça n'a pas été fait pour des raisons XY que je ne connais pas. Mais quand j'ai vu dans la presse qu'on indiquait qu'il était représentant du Vatican, je me suis quand même enquis en allant à la source. Donc j'ai téléphoné au nonce apostolique, qui n'était pas au courant, qui a appelé le substitut, Mgr Betchu, le substitut de la secrétaire d'État, et qui lui a répondu textuellement, mais non, il nous a informé par un petit courrier qu'il avait l'intention peut-être d'y participer. On s'est étonné de sa présence dans cet événement, et en tout cas, il ne l'a pas fait sous le mandat du Vatican. Il l'a fait sans doute en tant qu'il appartient à la communauté santé de Gidio, qui a l'habitude, sinon l'expertise, de participer à des actes de diplomatie parallèle. Et d'ailleurs, c'est un très bel objectif. Mais en même temps, il est archevêque de Bologne. Il engage donc d'une certaine manière l'Église quand il pose un acte aussi officiel, même si on sait qu'il appartient à la communauté santé de Gidio. Et c'est la raison pour laquelle il m'a été précisé par l'intérieur du nom qu'il n'avait pas le mandat du Saint-Siège, et qu'il m'était même loisible de le déclarer publiquement. Ce que je n'ai pas voulu faire moi-même directement, en me disant il n'y a pas d'intérêt à ce que je déclare publiquement Mgr Zuppi. Bon, maintenant qu'on me pose la question et qu'on continue de dire que... Et d'une certaine manière, en mettant porte-à-faux les évêques du Pays Basque, du Nord comme du Sud, je me permets de dire seulement ça. Je me permets seulement de dire qu'il est venu en son nom personnel ou au nom de Saint-Égidio, invité par les artisans de la paix, qui d'ailleurs lui ont affrété un jet privé pour venir de Bologne et y retourner le samedi 8 avril. Mais c'est tout. Moi, je peux pas dire plus.
Alors, dans le journal Eria du 27 avril, Pays Hospital, que vous connaissez, a publié une tribune intitulée « L'Église et la journée du désarmement », où il relate un peu, selon lui, comment la non-implication finalement de l'Église du Pays Basque, en la personne des quatre évêques. Comment vous réagissez à cette tribune ?
Vous voyez, moi je suis pour la liberté d'expression. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on m'a annoncé qu'il y avait cette tribune, j'ai dit qu'elle soit publiée sur les ondes de Radio Lapourdi, qui est quand même une radio diocésaine. Liberté d'expression, oui, mais procès d'intention, non. Et c'est vrai que le ton de cet article, qui est dans le procès d'intention, qui imagine des stratégies politiques dans la nomination des évêques du Pays Basque, y compris à Bayonne, qui compare notre non-présence à l'attitude des pharisiens dans l'Évangile, je ne suis pas sûr que ce soit absolument la meilleure manière d'être artisan de paix. Être artisan de paix, ça suppose dire son expression, mais éviter de juger publiquement les personnes, sans compter que je n'ai jamais reçu de visite personnelle de Pays Hospital sur cette question. Il ne m'a même pas interpellé ni avant ni après, et par voie de presse, une fois de plus, les évêques sont fustigés. Donc je répète qu'il faut être artisan de paix jusqu'au bout et ne pas s'entretenir les conflits et ne pas faire la guerre comme ça par plume interposée. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, point final. Et pour autant, je pense qu'il ne faut pas accorder plus d'importance à cette chronique, pour ce qui me concerne, en tout cas, que cela.
En tout cas, ce qui est important, c'est que... État n'a plus d'armes aujourd'hui. et que la société basque, en tout cas, s'apprête à vivre des étapes. Tout n'est pas réglé, loin de là. Il y a la question des victimes de l'ETA. Il y a la question des prisonniers politiques basques, notamment de ce que demandent depuis de nombreuses années à la fois les militants mais aussi les élus, c'est-à-dire le rapprochement des prisonniers politiques basques au Pays Basque. Vous, comment vous vous situez sur la suite? Est-ce que vous serez impliqué dans ce processus et
moi, je me situe, de quelle manière? Moi, je me situe d'un point de vue moral et ecclésial et non pas d'un point de vue de stratégie politique. Je n'ai pas à la juger d'ailleurs, hein, mais ça ne m'appartient pas. Je reste persuadé que le chemin est à faire, et toujours à faire. L'ETA, c'est une chose. De toute façon, l'ETA n'a plus aucune audience dans le peuple basque. Donc, c'est assez logique et assez facile qu'aujourd'hui, l'ETA décide de déposer les armes et de révéler les caches d'armes. C'est la moindre des choses. Mais la question de l'ETA n'est pas la question qui m'intéresse le plus. La question qui m'intéresse, c'est en effet les victimes et les familles des victimes. 800 et un peu plus de victimes, quand même, du terrorisme aveugle de l'ETA. C'est, en effet, toutes les autres souffrances que je dois aussi entendre. Hein. Mais je pense qu'on avancera dans la paix au Pays Basque lorsqu'il y aura réconciliation, réparation, demande de pardon. Et ça, c'est le point de morale dans lequel on peut être engagé en écoutant toutes les souffrances, pas de manière publique sous les projecteurs et devant les caméras pour donner une publicité et risquer aussi d'instrumentaliser notre action et notre parole de manière politique. Mais en même temps, c'est quand même ça qu'il faut faire, j'en ai bien conscience, d'écouter toutes les souffrances. Les familles des prisonniers ont aussi besoin d'être écoutées. Et moi, je dois aussi être capable d'entendre leurs souffrances. Je parle des familles, des prisonniers des prisonniers basques. Mais il est sûr qu'en premier lieu, je suis forcément du côté de ceux qui ont été les premières victimes de ce terrorisme, c'est-à-dire les familles des victimes qui ont été assassinées lâchement au cours de ces événements.
Monseigneur Allié, vous participerez un jour peut-être à une des veillées de prière organisées par le collectif de chrétiens pour la paix au Pays Basque à Tchikberritus.
Oui, ça fait
malgré les propos qu'a tenus Pays Hospital dans cet article.
La question n'est pas là. Je pense que cette association ne se réduit pas à Pays Hospital, mais j'ai accueilli, et je ne vois pas pourquoi je ne conduirais pas d'accueillir à la cathédrale, déjà au premier trimestre de cette année.
En
novembre dernier, voilà. Donc, premier trimestre de l'année pastorale, j'ai accueilli cette veillée de prière. Donc, c'est évident que ça fait partie de la dimension morale et spirituelle de toute démarche en vue de promouvoir la paix entre les hommes.
Vous en parlez avec les autres évêques
du Pays Basque Sud. Bien sûr, nous sommes en lien sur cette question.
Justement, une petite question vue de l'extérieur, parce que je ne suis pas basque moi-même, vous non plus. Comment ça s'est passé, votre intégration? Comment vous avez fait, étant donné que vous ne connaissiez pas cette question du Pays Basque, qui est très spécifique? Est-ce que, vous êtes rapproché des autres évêques du Pays Basque Sud?
Je suis comme entouré de prêtres basques, qui sont bien au fait de la question, et comme je le dis souvent, je suis quand même obligé de m'accorder sur le fait que les points de vue sont très diversifiés. Et que vous savez bien que l'engagement des prêtres basques du Pays Basque est aussi diversifié par rapport à toutes ces démarches, que tous n'ont pas tout à fait le même engagement. Je suis entouré au Conseil épiscopal de prêtres basques qui ne m'ont pas interpellé non plus de manière insistante, pas seulement insistante, sur la question de la journée du 8 avril. Le peuple du Pays Basque que je rencontre dans tous les villages, avec lequel je communie très volontiers en célébrant la messe en basque, avec beaucoup de joie, parce que je pense que c'est une manière aussi de manifester mon attachement aux fidèles qui habitent ce territoire et qui ont une culture qui a traversé les siècles et qui a transmis aussi les valeurs de l'Évangile et la foi. Ce peuple, il n'est pas forcément engagé de manière aussi politique dans toutes ces questions qui concernent la paix au Pays Basque.
C'est vrai que l'Église semble avoir toujours été très impliquée dans la culture basque. Elle a joué un rôle très important. Est-ce que, justement, pour vous, c'est important qu'elle continue à être...
Bien sûr, je l'ai redit d'ailleurs le jour où j'ai présidé la messe des chorales basques à Saint-Jean-de-Luz, hein, que la langue est le véhicule d'une culture et que cette culture au Pays basque est profondément imprégnée de la foi. Et donc, moi, je dis, il faut justement promouvoir la foi au Pays basque, qui est la culture, qui est le fondement de cette culture de notre Pays basque est transmise et qu'aujourd'hui, hélas, le Pays basque, comme beaucoup d'autres régions identifiées en France et dans le monde, peut-être aussi soumise à certaines colonisations idéologiques, comme dit le pape François, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le cœur même de la culture basque.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé, et nous allons revenir sur un événement qui s'est déroulé à la fin du mois de mars, c'était l'assemblée plénière de printemps des évêques à Lourdes. Alors c'est toujours une joie pour vous de vous retrouver avec vos collègues, avec vos confrères.
Oui, tout à fait. C'est toujours un temps un peu privilégié de fraternité épiscopale. Je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le redis, c'est toujours l'impression qui m'habite en revenant de ces assemblées, c'est que nous vivons 6 jours pendant au mois de novembre, 3 jours et demi au mois de mars, dans une atmosphère très spirituelle et très fraternelle. En plus, au mois de mars, nous sommes à huis clos, donc les journalistes n'ont pas accès, et c'est vrai, comme disaient certains évêques, ça nous repose, surtout si vous vous souvenez, en novembre dernier, nous étions sous les feux des projecteurs avec tout le scandale de la pédophilie qui agitait en particulier le diocèse de Lyon. Donc ça a été beaucoup plus serein, très fraternel comme toujours, avec des temps de prière qui, je pense, sont un peu l'âme de notre communion épiscopale, avec les diversités que l'on connaît, mais qui ne sont pas pour autant des diversités qui se vivent dans une culture d'affrontement. Je crois qu'il y a une culture de grand respect des uns des autres, et puis surtout nous sommes assez pragmatiques, nous sommes des pasteurs qui sommes confrontés aux mêmes difficultés, à chercher ensemble des solutions, parfois aux difficultés que nous rencontrons dans nos diocèses.
Et à écouter la voix de l'Esprit-Saint.
Alors, ce que l'Esprit dit aux Églises.
Un des sujets que vous avez abordé, c'est justement l'unité du presbytérium. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans notre diocèse. L'unité du presbytérium n'est pas toujours évidente à maintenir. On le sait, il y a eu donc cette fameuse fronde récemment de prêtres. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez, à l'Assemblée plénière, pu en parler aux
autres? Vous savez, comme on dit de manière triviale, quand on se regarde, on se désole, et quand on regarde les autres, on se console. Ça veut dire qu'au moins, si ce thème était mis à l'ordre du jour de cette Assemblée plénière, c'est que ça ne se passe pas seulement dans le diocèse de Bayonne, mais que cette difficulté de l'unité... et c'est pas un scoop, c'est vrai dans les familles, dans les couples et dans les familles, c'est vrai dans la société, ô combien divisée que nous connaissons aujourd'hui, qui est souvent dans une culture précisément de l'affrontement plus que du dialogue, et c'est vrai dans l'Église, nous n'avons pas à nous en étonner, même si l'Église va être un ferment d'unité, et que nous avons, nous, des moyens spirituels qui nous permettent davantage de construire cette unité, même si c'est nécessairement une œuvre difficile, et que nous avons besoin tout à fait de la grâce de Dieu pour cela. Oui, c'est vrai que notre diocèse était traversé par des turbulences au premier trimestre, depuis quelques mois. Et je pense que nous avons pris conscience, en tout cas pour ma part, je l'ai dit à la messe chrismale, en méditant des paroles très lumineuses du pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », dans un paragraphe intitulé « L'unité est supérieure au conflit ». Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'aborder un conflit, quand il existe et quand il s'exprime, comme il s'est invité, même de manière médiatique, dans notre diocèse, au mois de novembre. Il y a la manière de passer à côté comme si de rien n'était et de, finalement d'ignorer le conflit et de ne pas en saisir les tenants et les aboutissants. Et le poids de souffrance qui est toujours engagé dans un conflit. Et il y a une autre manière qui est de s'enfermer, d'être prisonnier du conflit et de perdre l'horizon et finalement de rendre l'unité impossible. Et puis il y a la troisième manière qui est finalement d'accepter, de supporter le conflit et d'en faire le maillon d'un processus. Et je crois que nous sommes engagés maintenant, et je crois que nous sommes bien engagés, dans cette démarche de résolution d'un conflit, où chacun doit s'examiner lui-même et se remettre en cause, et je crois que je l'ai fait moi aussi, hein. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru grâce, il faut le reconnaître, à la médiation du conseil presbytéral tel qu'il était renouvelé et qui a été renouvelé de manière à rendre compte de notre diocèse de cette diversité qui est celle du clergé et des fidèles et cette diversité qui peut être un lieu d'enrichissement plus qu'un lieu d'affrontement.
Des groupes de travail ont été constitués. Est-ce que vous avez déjà eu des retours ou c'est encore en cours?
Ah oui, tout à fait. Oui, on a demandé d'abord aux prêtres dans les doyennés de se saisir de la question à partir du rapport qui avait été commis par le groupe dit de Mourinx et la lettre que j'avais adressée à tous les diocésains en son temps et qui a permis un échange à la fois sur les difficultés mais peut-être aussi sur les merveilles et puis à partir de là, de faire des propositions pour grandir dans la communion. Une communion qui n'est pas une fin en soi, bien entendu, mais qui est une communion au service de la mission. Comme j'ai l'habitude de le dire, à la suite de Saint Jean-Paul II, l'Église est un mystère de communion missionnaire. C'est une communion qui est faite pour annoncer l'Évangile. Et il me semblait très important qu'on se redise ces choses avec nos diversités et qu'on soit capable d'accepter que les autres aient une sensibilité pastorale différente, les uns et les autres, et que c'est ensemble qu'on peut construire une église missionnaire.
Quels ont été les autres sujets que vous avez abordés lors de l'Assemblée plénière ?
Alors, beaucoup de petits sujets. C'était le 50e anniversaire de la DCC, qui a beaucoup d'importance dans le diocèse, car vous savez qu'il y a beaucoup...
L'éducation catholique à la coopération.
Voilà, tout à fait, oui. Donc, il y a beaucoup de coopérants catholiques dans notre diocèse, hein, et encore aujourd'hui, et qui est en lien avec donc, le service de la mission universelle hein, dans notre diocèse, qui est très vivant. Nous avons eu un exposé sur l'état de la mission de France, dont le prélat est l'archevêque de Sens-Auxerre, Mgr Giraud. Et puis, comme autre grand sujet, nous avons eu la réforme des structures de la Conférence des évêques de France. On se rend bien compte, en effet, que notre paquebot devient un peu lourd pour la navigation en haute mer. Il faut trouver des cadres pour animer des services et des structures qui existent dans notre conférence épiscopale, normalement au service de l'ensemble des diocèses. Et on voit que nos diocèses deviennent de plus en plus réticents à lâcher, si je puis dire, des forces vives dont nous avons tous cruellement besoin. Hein. Donc je pense que c'est un peu ce qui a commandé cette nouvelle réflexion, alors que la conférence a déjà été réformée il y a un petit peu plus de 10 ans. Et au fond, dans les discussions, qu'est-ce qu'il en est sorti ? Pour l'instant, pas grand-chose, je dois dire, mais au moins à travers des carrefours et à travers un débat en assemblée, il en est ressorti cette idée force qui est, mais au fond, de quoi avons-nous besoin comme structure organisationnelle au sein de notre conférence des évêques de France pour la mission d'évangélisation ? Est-ce que ce que nous avons comme service, etc., au sein de notre... Est-ce que tout ça est utile pour évangéliser ? Ça a été finalement une des lumières qui ont relancé la petite commission qui est chargée de ce travail et de nous présenter une réforme des structures en se disant ce n'est pas tant les réformes de structures qui sont importantes que de retourner au cœur de la mission de l'Église qui est d'annoncer l'Évangile.
Vous avez parlé également du denier. Alors, c'est vrai que dans notre diocèse, on a vu une forte baisse récemment. Est-ce que vous avez aussi pu en discuter avec les autres évêques et quelles sont les pistes prévues?
Alors, tout à fait. Hein. Donc, on connaît cette stagnation ou cette chute du denier de l'Église de manière très générale dans l'Église de France, en particulier par la baisse assez importante du nombre des donateurs. Hein. On remarque chez nous, comme ailleurs, que le nombre de donateurs a beaucoup diminué. Pourquoi ? Parce que les donateurs traditionnels, au bout de la chaîne, forcément font défection. Et ainsi que la baisse de l'ensemble du denier, même si on voit que les donateurs sont plus généreux, hein, généralement, du fait que de la chute du nombre de donateurs. Chez nous, il y a une chute du nombre de donateurs très conséquente. Il y a aussi une chute de l'ensemble des dons. Hein. Mais d'une certaine manière, depuis 10 ans, le nombre de ceux qui ne donnent pas au denier de l'Église reste assez stable. Ce qui est inquiétant, c'est la conquête, comme on dit dans le langage marketing, de nouveaux donateurs. Et c'est là où nous ne sommes pas bons du tout dans le diocèse, et nous ne sommes pas bons non plus dans l'ensemble des diocèses de France. C'est pourquoi on est toujours dans cette stratégie de conquête de nouveaux donateurs, en particulier ce qu'on appelle les boomers, hein, ceux qui ont entre 50 et 65 ans, qui sont stabilisés dans la vie professionnelle et qui sont les vrais potentiels donateurs hein, d'aujourd'hui, même s'il faut continuer d'essayer de sensibiliser les plus jeunes qui ne donneront peut-être pas tout de suite, mais qui seront sensibilisés au fait que l'Église ne vit que de leurs dons. Ensuite, il faut continuer évidemment à fidéliser les plus âgés.
Vous avez pris aussi des décisions, comme par exemple l'entrée en vigueur de la nouvelle formule du Notre Père pour le temps de l'Avent l'an prochain,
puisque la publication du nouveau missel tarde à venir, nous avons décidé ensemble que au moins on adopterait la nouvelle traduction du Notre Père à partir du premier dimanche de l'Avent 2017.
Qu'est-ce qui va changer alors ?
Juste la sixième demande, hein, à la place de « ne nous soumets pas à la tentation », eh bien on dira « ne nous laisse pas entrer en tentation », hein, qui est une traduction qui a été adoptée par la Conférence des évêques de France en assemblée plénière, à la majorité des deux tiers, il y a déjà 3 ou 4 ans.
Alors, au lendemain de l'assemblée plénière des évêques, il y a eu un événement qui a un peu stupéfait tout le monde, c'est la démission de Mgr Gachignard, évêque d'Aire-et-Dax. Quel est votre sentiment sur cette démission, sur ce qui s'est passé ?
C'est vrai que je crois que on a vu ça forcément de loin, hein, à travers des rumeurs qui pouvaient nous parvenir de ce malaise qui existait au sein du diocèse, en particulier de la pastorale des jeunes, de familles troublées, de jeunes troublés, qui ont mis sans doute du temps à exprimer ou s'organiser pour exprimer les choses, peut-être pas suffisamment auprès de leur évêque. Et résultat, la presse commençait à s'en prendre un petit peu à cette question. Et donc, Mgr Gachignard, alerté par ce trouble et ce malaise qui grandissait dans son diocèse, a été invité hein, à présenter sa démission au Saint-Père, qui l'a accepté, comme vous le savez. Alors, c'est sûr que c'est une grande souffrance pour ce diocèse, pour les prêtres, et donc nous y sommes évidemment très sensibles, parce que ce sont nos voisins les plus immédiats. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles ont été communiquées, c'est-à-dire en vérité, avec beaucoup de transparence, et d'ailleurs, les médias ne sont pas acharnés sur la question, comme vous l'avez remarqué, comme chaque fois que l'on parle en transparence et en vérité, il n'y a absolument rien à ma connaissance et à la connaissance même du procureur de la République en ce temps-là d'ordre pénal, hein, bien entendu, comme ça a été dit par le vicaire général du diocèse et le communiqué qui a été fait par le cardinal Ricard et la conférence avec de France. Il s'agissait de peut-être de posture dans la pastorale des jeunes qui n'était pas suffisamment ajustée, d'une distance qui n'était pas suffisamment respecté sans doute, mais je tiens à quand même préciser qu'il ne s'agissait pas du tout d'actes d'ordre pénal, donc répréhensible. Évidemment, nous étions tous et plus sensibilisés à cette question parce que nous sommes en plein drame de la pédophilie dans l'Église, hein, qui a beaucoup défrayé la chronique ces derniers mois. Donc les amalgames étaient vite faciles. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, hypersensible, ben, la prudence de l'Église a proposé à Mgr Guéchignard de présenter sa démission.
Du coup, est-ce que vous pensez, Monseigneur, qu'il aurait dû être... C'était normal qu'il soit nommé évêque, étant donné qu'il y avait déjà eu apparemment des...
Alors c'est ce qu'on a dit après. C'est ce qu'on a dit après. Moi, je n'ai pas eu connaissance à ce moment-là, évidemment, de ces faits.
Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré, qu'il est victime de ce justement cet emballement, ou est-ce
je dis pas qu'il est victime. D'ailleurs, lui, je dis pas qu'il est victime. D'ailleurs, lui-même, il a très librement présenté sa démission. Donc, je pense qu'il n'y a pas de. Je vois pas quel commentaire je peux faire, moi, de plus, ne sachant pas tous les tenants et aboutissants de la question, y compris d'avant son arrivée dans le diocèse d'Aridax.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Monseigneur.
Radio Lapourdi, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayer, nous terminons avec vous cette émission sur Radio Lapourdi et Radio Présence. Nous allons parler de vie diocésaine, mais tout d'abord pour terminer sur ce sujet qui a quand même secoué beaucoup notre diocèse de la pédophilie. Un témoignage récemment est paru dans l'Éclair qui accusait en fait les bétaramites d'avoir gardé le silence sur une affaire, une personne qui avait été abusé par un prêtre. Alors, c'était il y a 60 ans. Quelle est la procédure finalement de l'Église dans ces cas-là, quand ça date d'il y a 60 ans, où il n'y a plus du coup de procédure pénale possible? Qu'a-t-on fait de ce prêtre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer où ça en est? Puis est-ce que la cellule d'écoute de pédophilie fonctionne bien, elle qui a été ouverte, je crois, il y a un an à peu près?
Alors d'abord, comme vous le savez, en droit civil comme en droit canonique, il y a une présomption d'innocence tant que la sentence n'a pas été publiée. Pour ce qui est du procès civil, comme vous l'avez rappelé, il y avait prescription, puisque ça a eu lieu il y a 60 ans. Et quand ce monsieur est venu vers moi pour me révéler ce qui s'était passé, de son point de vue, j'ai voulu tout de suite d'abord lui demander pardon au nom d'église en tant qu'évêque, mais comme ça dépendait de la congrégation du Sacré-Cœur de Bétharram, je l'ai mis en lien immédiatement avec les autorités française des bétharamites, qui ont fait diligence et qui ont commencé, comme je leur ai suggéré, une enquête canonique. Donc ils sont venus l'auditionner longuement et ils ont pris des préconisations de ce prêtre qui a plus de 80 ans maintenant et qui est en Palestine. Ils ont déposé aujourd'hui leur enquête, si vous voulez, le dossier de leur enquête, le rapport d'enquête, pardon, ils l'ont déposé à la Congrégation Prêtrine de la Foi, comme cela est de mise. Et ils attendent maintenant la décision de la Congrégation Prêtrine de la Foi concernant les sanctions à prendre vis-à-vis de ce prêtre, si sanctions il doit y avoir. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que M. Delbos, puisqu'il s'agit de lui, a voulu témoigner devant la presse de ce qui s'était passé, et pour lui et de la manière dont il avait en effet été bien reçu par l'évêque que je suis et aussi par les bétharamites qui sont venus l'auditionner. Donc c'était aussi pour lui une manière de dire l'Église n'est pas complètement absente de nos problèmes, elle nous écoute et elle prend des décisions et elle prend des mesures pour entendre et nous obtenir réparation. Donc c'était plutôt une manière de... Bon, alors maintenant c'est sûr que depuis cet article, il n'y a eu aucune autre plainte qui s'est présentée par rapport à ce prêtre. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule plainte qui est la plainte de ce monsieur.
C'est vrai que l'inconvénient de ce genre d'article, c'est aussi de peut-être semer la crainte dans les familles, de se dire, encore une affaire. Qu'est-ce que vous avez
encore
à dire aux familles?
Encore une affaire qui a 60 ans.
Oui, mais il y a toujours une espèce de climat de suspicion.
Nous avons, je termine sur l'action que vous m'avez posée précédemment concernant la cellule d'écoute des victimes que nous avons mise en place avec 3 personnes compétentes. Jusqu'à présent, peu de victimes se sont présentées à la cellule. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. J'en ai reçu une autre avec laquelle on a eu un très bel échange. Et je dois dire que j'ai vraiment entendu et pris encore plus conscience, comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années dans l'Église, des souffrances occasionnées par ce genre d'actes profondément répréhensibles. J'en ai d'ailleurs dit un mot le jour de la messe chrismale, tellement j'avais été touché par cette rencontre. Et j'ai vu en effet combien l'Église, et à travers l'évêque qui représente pour ses victimes l'Église, doit être dans une situation de profonde écoute et compassion, et aussi de manière très concrète, doit, indépendamment de l'action de justice, qui là aussi ne se présente plus puisque le prêtre en question est décédé depuis 20 ans et qui a évidemment prescription aussi du point de vue de la justice civile, mais comment est-ce que l'Église peut apporter une véritable aide concrète à des personnes qui ont été profondément plus que perturbées, mais détruites même dans leur identité et empoisonnées tout au long de leur vie par le drame qu'ils ont vécu.
Le dimanche 7 mai, dimanche du Bon Pasteur, nous avons célébré la journée mondiale pour les vocations et il y a plusieurs rendez-vous en mai et en juin autour de la pastorale des vocations avec notamment les ordinations. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer un peu ce qui va se vivre avec les jeunes du séminaire en mai et juin?
Voilà, alors donc outre l'ordination d'un diacre pour la fraternité Saint-Thomas Becket qui suit sa formation au séminaire de Bayonne, qui aura lieu le samedi 13 mai au matin à Saint-Amand, pour la fraternité Saint-Thomas Becket, j'ordonnerai un diacre pour le diocèse le jour de l'Ascension à la cathédrale de Bayonne à 16h. Il s'agit de Maxime Demain, hein, qui a commencé son séminaire propédeutique et premier cycle à Bayonne, puis après son année de stage dans l'œuvre Point Cœur à Naples, a poursuivi ses études à Rome. Et donc sera ordonné diacre pour le diocèse le 25 mai. Et puis j'ordonnerai trois prêtres le dimanche 25 juin à 16h également à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Il s'agit donc des trois diacres que j'ai ordonnés l'an dernier, Louis-Léopold Frécon et Sébastien Baudry, qui font partie de la première équipe de la propédeutique de 2009, et puis Louis-Marie Dupin, qui nous a rejoint seulement en 2011. Voilà. Donc, nous nous réjouissons en effet de voir les fruits, et les premiers fruits même, de notre séminaire réouvert de Bayonne en 2009 et 2010.
Vous revenez d'un pèlerinage à Fatima et vous organisez à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne un grand événement pendant 3 jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Voilà, donc comme vous le savez, nous célébrons cette année le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, hein, le 13 mai 2017 jusqu'au 13 octobre 2017. Donc le 13 de chaque mois pendant 6 mois, comme la Vierge le demande le 13 mai aux voyants de Fatima, sauf au mois d'août, où le 13 août, ses enfants étaient emprisonnés hein, par des autorités locales extrêmement anticléricales. Et donc c'est seulement le 19 août, et d'ailleurs pas au même endroit, que la Vierge Marie est à nouveau apparue à ses voyants. Donc dans le cadre de ce centenaire, nous avons d'abord organisé avec l'atelier Théâtre Notre-Dame un pèlerinage qui a rassemblé 56 fidèles du diocèse à Fatima, donc au mois de mai, qui a été un très très beau pèlerinage, hein, où nous sommes allés à la rencontre de la Vierge Marie, hein, qui était venue à la rencontre de ses 3 enfants, et qui d'une certaine manière vient à la rencontre du monde, toujours aujourd'hui, pour nous tourner nos regards vers le ciel et tourner nos regards vers Dieu dans une actualité turbulente à l'époque. Il s'agissait de la Première Guerre mondiale, 1917, de la révolution bolchevique et donc des drames du communisme athée qui a répandu ses erreurs, comme dit la Sainte Vierge, à travers le monde, bien au-delà de la chute du mur de Berlin, comme on le sait. Et donc cette apparition a tellement d'actualité que le pape François va lui-même le 12 et 13 mai, commémorer ce 100e anniversaire à Fatima et va même canoniser les 2 enfants qui ont été béatifiés par Jean-Paul II, Jacinta et Francisco. Donc c'est quand même un événement très important pour le Portugal, mais pour l'Église universelle aussi. Et donc dans le cadre de ce centenaire, nous organisons aussi un événement cultuel, même s'il a des retombées culturelles, à la cathédrale les 11, 12 et 13 mai, avec l'illumination à la bougie de la cathédrale par l'association Calaloumen. Il s'était déjà illustré l'an dernier dans le cadre du forum commune évangélisation à Saint-Jacques-de-Pau. Et chaque soir, il y aura un programme spirituel de chants et de récitals, d'abord avec des chorales basques le 11 mai, ensuite avec
le chœur chantadour pour ce qui est à la partie plus classique.
Voilà, le chœur chantadour.
Les chefs-d'œuvre de la
musique sacrée, voilà. Hein, de la musique sacrée, le 12 mai. Et le 13 mai, évidemment, une veillée mariale autour de Notre-Dame de la Paix avec la participation de la communauté portugaise et de la chorale liturgique cantariaque de Biarritz. Et on espère faire une procession avec la statue de Notre-Dame de Fatima dans la cathédrale et dans le cloître.
Alors ça commémore aussi ce que votre prédécesseur, Mgr Théry, avait fait en 1947.
Alors ça, c'est un petit peu plus tard, c'est le troisième événement. Pour ce qui est du 13 mai, on a couplé cet événement avec la Nuit des cathédrales. La Nuit des cathédrales, qui est un événement culturel, organisé en toute l'Europe. Et cette année, ça tombe le jour du centenaire des apparitions de Notre-Dame Fatima. Alors ensuite, en effet, le 18 juin, nous allons commémorer le 70e anniversaire d'un pèlerinage d'une vierge pèlerine du sanctuaire de Fatima, qui nous sera d'ailleurs également confiée, qui a visité l'Espagne, donc c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Hein,
en 1947.
Voilà, et qui a été accueillie le 18 juin 1947 à Hendaye, donc c'est l'évêque de Vitoria à l'époque, puisque je pense que le diocèse de Saint-Sébastien n'existait pas encore, qui est venu concéder cette statue sur le pont international de la Bidassoa à Mgr Terrier, mon prédécesseur, et puis qui a été portée ensuite en procession jusqu'à l'église Saint-Vincent, où elle a séjourné, puis elle est allée à Bidar, puis à la cathédrale, et elle a dormi à Notre-Dame du Refuge. Et puis ensuite, elle était embarquée, non pas pour continuer son périple en France, mais dans un pays du nord de l'Europe, je crois que c'était la Hollande. Donc pour commémorer cet événement, nous allons accueillir une vierge pèlerine qui vient du sanctuaire Notre-Dame de Fatima, à Hendaye le 18 juin, à 16h, donc à Saint-Vincent. Elle va rester une semaine à Saint-Vincent, et ensuite, elle va pérégriner dans tout le diocèse jusqu'au 13 octobre. Donc le service diocésain des pèlerinages organise ce pèlerinage à travers notre diocèse.
Qu'est-ce qu'on peut retenir du message de Fatima, sachant qu'il n'est pas évident à comprendre? C'est vrai qu'on parle de prier pour la conversion des pécheurs, des sacrifices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
l'histoire du fameux secret?
Alors oui, c'est très compliqué. C'est pas très compliqué, non. La Vierge Marie apparaît donc le 13 mai à ses trois enfants, donc vêtue de revêtue du soleil. Donc c'est vraiment la femme de l'Apocalypse, hein. Qui donc annonce d'une certaine manière les derniers temps, même si nous sommes dans les derniers temps depuis l'incarnation, depuis 2000 ans. Elle apparaît sur un petit chêne vert de la Cova d'Aeria, là, près de ce village d'Ajustrel. Bon. Et à ses trois petits pastoureaux de 10 ans, 10 ans et 8 ans. Et quand elle apparaît, Lucie lui demande « Mais d'où venez-vous votre grâce ?» Et elle répond « Je viens du ciel ». Et je viens pour vous appeler à venir tous les 13 du mois, pendant 6 mois, et je vous demande de prier le chapelet pour la conversion des pécheurs. Alors elle demande s'ils iront aussi au ciel, et elle répond « Oui, oui, vous irez au ciel, mais Francisco, il ira à condition de dire beaucoup de chapelets. » Bon, alors voilà, c'est centré sur la prière du chapelet pour la conversion des pécheurs.
Qu'est-ce que ça veut dire de prier pour la conversion des
autres? C'est un avertissement par la voix de ses enfants, fait au monde de l'époque, garde son actualité aujourd'hui, de se retourner vers Dieu dont on s'est éloigné. Hein. Il faut savoir que le contexte historique du Portugal est quand même tout à fait significatif. Nous sommes depuis 1910 dans l'avènement d'une république extrêmement violente vis-à-vis de la religion catholique, de l'Église et des chrétiens. Donc expulsion des congrégations, massacre de religieuses et de prêtres, une sorte d'apostasie qui est en train d'être promue par la République qui vient d'être autoproclamée. Et c'est à ce moment-là, alors qu'on est en pleine guerre mondiale et que le Portugal n'est pas engagé dans le conflit, qu'elle vient surtout pour leur demander, ça vient du détournement des hommes de la part de Dieu, et je vous invite à prier le chapelet pour l'arrêt de la guerre. Mais si les pêcheurs ne se convertissent pas, il y aura sous le règne de Pie XI, évidemment c'est bien avant Pie XI, et Lucie Artemisia, elle croyait même que c'était un roi, parce qu'elle évidemment elle connaissait pas Pie XI par définition, il y aura une guerre encore plus meurtrière. Et puis elle demande de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Nous sommes juste avant la révolution bolchevique d'octobre 1917. Nous sommes là le 13 mai 1917, c'est le 13 juillet, je crois qu'elle va évoquer cette question. Et si on ne prie pas pour la, si on ne consacre pas la Russie au cœur, à mon cœur immaculé, eh bien, elle continuera à répandre ses erreurs à travers le monde. Voilà. C'est très lié aussi au pape. Elle demande de beaucoup prier pour le pape et elles ont cette fameuse vision d'un homme en blanc sur un qui gravit une montagne jonchée de cadavres, avec surmontée par une grande croix et qui tombe sous les coups.
C'est vrai que c'est un message très dur, un peu apocalyptique, qui n'est pas vraiment dans l'air du temps aujourd'hui.
Alors c'est un message d'autant plus dur que elle donne une vision de l'enfer à ses enfants. Voyez. En disant, si les hommes ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Alors, ça ne veut pas dire c'est une annonce, hein, c'est un message que ces enfants ont reçu. Donc, c'est assez impressionnant. Et l'Église a reconnu, officiellement, évidemment, l'authenticité de ces apparitions et l'a toujours pris très au sérieux. Et le pape François lui-même va aller commémorer cet événement. Ça veut dire que dans ces temps 20e, 21e siècle, on est très frappé que les apparitions de la Vierge principale, celles qui ont été reconnues, sont toutes centrées sur cet avertissement qui reprend l'avertissement du Christ, hein, convertissez-vous, croyez l'Évangile, qui est un appel à la conversion. Et donc une insistance pour que l'on prie pour la conversion des pécheurs, qu'on offre des sacrifices, c'est-à-dire qu'on offre sa vie par amour, en union avec le Christ, pour la conversion des pécheurs.
Merci beaucoup, Monseigneur Marcaillet. Peut-être signalons juste à ceux qui nous écoutent qu'il y a une grande journée proposée par l'enseignement catholique à Lourdes le 1er juin. Je crois que c'est les enfants de CM1, CM2.
CM1, CM2,
troisième cycle.
Non, CM1, CM2, sixième.
Troisième cycle.
Donc une grosse journée à Lourdes avec l'enseignement catholique.
Avec 4000 enfants, je crois.
Et puis vous confirmerez les adultes et les grands jeunes à la cathédrale de Bayonne le jour de la Pentecôte, le 4 juin. Ça sera l'après-midi à 15h30. Voilà, oui, merci beaucoup, Monseigneur.
Merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël. Écoutez, Israël.
Monseigneur Marcaillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.